Le seul avantage à écouter la version audio, c'est que vous n'avez pas à vous taper la quiche Lorraine que j'ai sur la lèvre actuellement. Et ça, bah, bravo. Vous avez beaucoup de chance.
Allez du cinéma ! Allez du cinéma,
bonjour ! Bonjour à tous et toutes, et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. L'intelligence artificielle fait reparler d'elle à Hollywood. En effet, Sora et OpenAI débarquent et vont faire n'importe quoi auprès des exécutifs de studio. Qu'est-ce qui se passe ? Je vous explique tout. À côté de ça, c'est lundi, c'est le bistrot d'Andrew qui ouvre sa porte à quatre nouveaux cinéphiles qui ont apporté à la table un film qui leur tient à cœur, sur lequel se disputer, mais surtout échanger. Et il y aura aussi la question du public, puis Immaculé, le film d'horreur avec Sydney Sweeney, sainteté vierge. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma avec vous.
Eh bien, ça ne va pas être dans la poche.
Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission dans son format podcast ou qui la regardent sur YouTube. Quel que soit le choix que vous faites, vous avez du contenu exclusif. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner aux deux. Je me permets de dire que dans la précédente émission, j'ai abordé la question de merde, le podcast, le vendredi, je sais pas trop quoi faire comme format exclusif. J'ai reçu beaucoup de réponses, merci à tous les gens qui ont répondu. Et du coup, bah, il y a une réponse qui est revenue majoritairement et je me suis dit, putain, ouais, effectivement, ce serait pas con. Donc, bref, à partir de vendredi, il y aura une nouvelle rubrique dans la partie podcast, une rubrique exclusive pour le podcast. Et j'ai très hâte de pouvoir vous faire écouter ça. On va écouter un peu de musique, ce sera rigolo. Allez, le pire podcast cinéma, c'est trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin, pour ne rien rater de l'actualité de le cinéma. Et on commence tout de suite avec le sujet du jour.
Respect et robustesse, Caius C+. Alors, les nouvelles sont bonnes ?
Ah, ils sont pas de la dernière marée, les nouvelles.
Moi, je veux du féroce actualité.
Et si on reparlait intelligence artificielle et mort d'Hollywood ? Ça fait un petit moment là quand même, c'est le point mensuel. La dernière fois que je l'ai fait, c'était il y a un peu plus d'un mois, et à chaque mois, il y a des nouvelles choses qui donnent envie de mourir. Parce qu'il y a un mois, j'avais traité de l'arrivée d'un nouvel outil qui s'appelle Sora. Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'était Sora ? Sora, c'est une intelligence artificielle développée par OpenAI, OpenAI qui ont entre autres fait ChatGPT, voilà, c'est pas des manches, c'est quand même les leaders dans le secteur. Ils ont une cotation boursière qui est absolument dingue. Non, vraiment, quand on parle d'intelligence artificielle OpenAI, c'est vraiment le top. Et avec Sora, ils se sont lancés dans un nouveau secteur qui est la génération de vidéos à partir de texte. C'est-à-dire que tu écris une phrase et soudainement, pouf, tu obtiens une vidéo en HD à partir de la phrase, car un ordinateur a tout calculé, a fait « Ok, la phrase voulait dire ça, voilà une vidéo qui correspond ». On a vu des tests passer, évidemment, il y a des trucs où tout n'est pas parfait, mais il faut juste se rendre compte quand même du bond de géant qui a été fait dans l'industrie de la génération vidéo en seulement un an. On est passé de trucs image par image absolument dégueulasses avec de l'entrelacement où on comprenait rien, à soudainement des vidéos où la différence avec la réalité est parfois difficilement perceptible. Et tout ça en seulement un an. C'est énorme ce qui s'est passé avec Sora. Imaginez donc ce qu'ils sont capables de faire en 3 ans. Je vous laisse même pas le temps d'imaginer parce qu'il y a d'autres gens qui imaginent très bien à votre place, à savoir les gens qui bossent dans des studios à Hollywood. Effectivement, l'intelligence artificielle, c'est un débat régulier là-bas, suffit de voir ce qui s'est passé pendant la grève et où la majorité des studios voulaient déjà remplacer tout le monde par des robots alors qu'ils avaient même pas les outils. Bah oui, parce qu'un robot, ça coûte moins cher, ça peut bosser H24 et puis ça défie pas l'autorité. Pourquoi est-ce qu'on s'emmerde avec des vrais gens ? Si vous avez suivi tout l'arc sur la grève, évidemment, il y a eu des accords, ça a été régulé, mais c'est pas parce que ça a été régulé qu'il n'y a pas encore des discussions qui ont lieu à ce sujet à Hollywood. Et c'est ce qu'on apprend dans un article tout récent de Deadline. Dans cet article sorti il y a 2 jours que je vous ai mis en description si ça vous intéresse, on apprend que OpenAI va organiser dans les semaines à venir bon nombre de réunions avec des studios, des agences et des producteurs afin de leur présenter Sora et qu'ils deviennent plus familiers avec la technologie. Globalement, ça consiste à se pointer dans des studios et faire « Ah, pas mal notre truc, hein, vous en voulez ?»« Ah ouais, mince, vous avez des accords avec les syndicats. Mais c'est combien de temps les accords avec les syndicats ? 3 ans ?» Bon bah on en reparle dans quelques mois. Une des premières personnes à véritablement investir là-dedans, c'est le comédien, scénariste et producteur Tyler Perry. Alors Tyler Perry, vous le connaissez probablement pas en France parce qu'il s'exporte très très peu en dehors des États-Unis, mais vous l'avez peut-être vu par exemple dans le film Don't Look Up récemment. Ce qu'il faut savoir sur Tyler Perry, c'est qu'il a créé un soap opéra qui a très bien marché entre 2013 et 2021 qui s'appelle The Haves and the Have Not. Et puis accessoirement, c'est le comédien le plus riche de la planète. Sa fortune est estimée à 1 milliard de dollars. Ouais, c'est un mec que vous connaissez peut-être pas, mais vous inquiétez pas, il s'en sort très bien quand même. Eh bien, Tyler Perry a annoncé créer de son côté un studio coûtant 800 millions de dollars qui sera entièrement dédié à l'intelligence artificielle tellement Sora l'a impressionné. Preuve en est que certains ont vraiment décidé d'investir là-dedans. Mais Tyler Perry, il a un avis avec du recul quand même. Il a déclaré « Qu'on te dise que Sora peut faire tout ce genre de truc en une phrase, c'est dingue. Mais véritablement voir ses capacités en action, c'est époustouflant. Maintenant, il faut qu'il y ait des régulations afin de nous protéger. Sinon, je vois juste pas comment nous allons survivre. » Et ça, c'est une inquiétude qui existe depuis des mois et qui ne touche pas que le secteur du cinéma. Un autre article, aussi disponible en description, qui vient du média IndieWire, a relayé un gros sondage sur le regard que portent les différents corps de métiers américains sur l'arrivée prochaine de l'IA et s'ils se sentent menacés ou pas. Et les résultats sont plutôt étonnants. Le sondage relaie en fait à chaque fois trois pourcentages, à savoir tout d'abord le pourcentage de gens qui se sentent menacés, le pourcentage de gens qui s'en foutent, et le pourcentage de gens qui disent « non, au contraire, ça va améliorer notre travail ». Les personnes qui se sentent le moins menacées par l'IA, ce sont les développeurs de programmes, les personnes dans le web design et les gens dans l'industrie du jeu vidéo, qui pensent que, au contraire, l'intelligence artificielle va énormément les aider. Et je m'étonne un peu de voir le jeu vidéo figurer dans cette liste. Je veux dire, j'ai plutôt l'impression que l'intelligence artificielle, c'est le meilleur moyen de virer un paquet de gens et de les remplacer justement par des process automatisés. Il suffit de voir ici à Montréal, on est quand même une ville où il y a des milliers de studios de jeux vidéo, et ben le nombre de licenciements qu'on se tape ici, c'est extraordinaire. Non mais ça n'a aucun sens. Autant vous dire que si on leur donne une techno qui permet encore d'économiser de la thune, ouais, c'est peut-être que le début quoi. A contrario, les personnes qui se sentent le plus menacées par l'intelligence artificielle, ce sont tout d'abord les personnes travaillant dans le monde de la musique et du cinéma. Et c'est pas étonnant, je veux dire, maintenant on a de plus en plus de machines qui produisent de la musique, qui produisent des visuels. Évidemment qu'avec le temps, ça va être utilisé par des gens et ça va donc délester certaines personnes de leurs emplois. C'est vraiment un des secteurs les plus à risque et c'est pas le seul, parce que dans les personnes les plus flippées, il y a aussi les journalistes. Et tu m'étonnes, pourquoi payer des pigistes? Rendez-vous compte, des pigistes? Pourquoi les payer alors qu'on peut juste demander à une IA de résumer un site internet avec un autre ton, avec d'autres mots, et pouf, on a un article tout fait gratos. Et comme ça, ce sera bien, tous les articles qui font de la news ressembleront aux articles de merde qu'on retrouve sur JVC ou sur Allociné. Ouais, j'assume de dire ça, j'en ai rien à branler. Ce film à 4,2 sur 5 sur notre site était vraiment une révolution dans son temps. Eh, je suis spécialiste des titres vulgos et vraiment même là, je trouve qu'ils m'ont baisé. Vraiment, ils sont trop loin. Faut jouer avec l'algorithme Google, bien évidemment. C'est aussi ça la difficulté, les algorithmes. On va revenir dessus plus tard. Enfin, en première position des personnes qui se sentent le plus menacées, on retrouve le milieu de la littérature. Et c'est normal, ils sont déjà dedans. Je veux dire, combien il y a de bouquins qui sont vendus sur Amazon, notamment, j'avais vu passer énormément de guides touristiques où c'est juste des résumés de sites internet compilé dans un bouquin avec ChatGPT, et t'as des mecs qui vendent ça 40 balles et ils ont un profit complètement débile alors qu'il y a eu une source de travail qui était négative. Par contre, les gens qui se sentent pas menacés du tout, c'est les gens du monde du théâtre et de la comédie musicale. Ouais, on n'a pas encore trouvé comment mettre une intelligence artificielle sur scène à Broadway, mais on va y réfléchir. Tout vient à point à qui sait attendre. Je sais, je suis toujours très alarmiste sur ce genre de sujet, et pour cause, la grève a permis d'avoir au secteur du cinéma 3 ans de répit. Mais on sait très bien ce qui va se passer dans 3 ans. La technologie aura fait un bond encore plus grand, et ce sera plus un petit gadget rigolo, ce sera un truc intégré à notre société. Pour vous dire, il a été annoncé par OpenAI que Sora, leur intelligence artificielle qui fait de la vidéo, sera disponible pour le grand public cette année. Ça veut dire que avant fin 2024, on pourra tous créer de chez nous avec quelques lignes sur notre ordinateur n'importe quel court-métrage et idée farfelue qui nous viendra en tête. À partir du moment où cette pratique sera rentrée quelque peu dans les mœurs, ce sera beaucoup plus simple dans 3 ans à la renégociation des contrats avec syndicats de leur dire « bah regardez, tout le monde le fait, pourquoi vous êtes les derniers à vouloir résister ?» Et du coup, bah, ils seront bien obligés d'intégrer ça à leur process et à supprimer des emplois. Et à supprimer de l'humain. Ce qui sera présenté comme une révolution incroyable, une nouvelle découverte, un nouvel Eldorado, sera juste la destruction d'une partie de l'imaginaire humain. Et je connais les commentaires que je me tape régulièrement du style « Eh, si un robot le fait mieux, nique sa mère les humains, faut laisser faire le robot. » Et c'est un débat qu'on peut avoir dans plein de secteurs. Je pense notamment à tout ce qui est travail manuel. Effectivement, est-ce qu'au lieu de briser des corps humains, bah utiliser des machines, c'est pas plus... On pourrait avoir ce genre de débat, des débats très complexes, on pourrait les avoir. Mais pensez-vous réellement, et je m'adresse aux gens qui écoutent cette émission, pensez-vous réellement qu'un ordinateur a un meilleur imaginaire que le vôtre? Je pose cette question. Est-ce que un ordinateur imagine des choses mieux que vous? Est-ce qu'un ordinateur a un vécu, un passé, quelque chose autour de lui qui l'entoure et qui lui permet d'avoir un meilleur imaginaire que le vôtre? Un film, une œuvre au cinéma se nourrit notamment d'une grande partie du vécu des personnes qui se trouvent présentes devant et derrière la caméra. Et ce vécu va essayer d'être transmis ensuite au plus grand nombre. Je suis alarmiste parce que je pense qu'un film qui a été conçu par des algorithmes, des calculs, qui est fait pour me plaire, fera autre chose que juste me laisser dans ma zone de confort. Je veux aller au cinéma pour voir quelque chose de rugueux, quelque chose de différent, quelque chose qui vient justement de l'imaginaire d'un autre être humain avec lequel je suis peut-être pas du tout en accord. Je veux pas aller au cinéma pour voir une machine qui s'est nourrie en plus du travail d'autres gens dans le passé essayer de faire un film qui est soi-disant là pour me plaire parce qu'il a été designé pour. Le cinéma, c'est pas du calcul. Et derrière les premiers espoirs de « waouh, ça va améliorer le monde des effets spéciaux, regardez les algorithmes, ça va aider les plateformes et tout », tout ce que je vois à la longue, c'est la destruction d'une partie de notre imaginaire et surtout du travail effectué par des véritables humains qui vont se retrouver à la rue. Grosse ambiance au début de semaine, hein. Allez, on avance. C'est lundi, c'est l'heure du bistrot dans le Drou, vous le savez, chaque semaine, il vous ouvre les portes. Oui, à vous, quatre nouveaux cinéphiles viennent dans son bar pour lui parler de cinéma. Toujours le même concept, quatre personnes, quatre films. Vous êtes venus parler d'un truc qui vous tient à cœur, connu ou pas. Vous êtes venus échanger autour de votre passion du cinéma avec vos mots et surtout bienveillance. Il est très varié, d'ailleurs, ce bistrot dans le Drou, vous allez voir. Andrew, c'est à toi.
C'est une excellente question.
Qu'est-ce que vous voulez comme remontant ?
Je vous fais confiance.
Bon.
Bonjour à tous et bienvenue dans le bistrot d'Andrew. Comme chaque semaine, j'ai fait venir des invités pour me parler d'un film. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de...
Julien.
Marc-Antoine.
Paru.
Rebonjour.
Oui.
Et Martin.
Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?
Je travaille dans une résidence pour personnes âgées, mais à côté, je fais des vidéos sur YouTube.
D'accord. Oh, cool.
Je travaille à l'Office québécois de la langue française comme conseiller auprès des entreprises.
D'accord.
Moi, je suis toujours employée dans une salle de cinéma au Laurentide.
Vous avez regardé dans l'émission précédente. Et toi ?
Yes, moi, je suis pigiste dans l'audiovisuel en général.
Super. Donc, Martin, tu voulais venir nous parler d'un film ?
Yes, je vais venir vous parler de Platoon d'Oliver Stone, sorti en 1985. C'est un film sur la guerre du Vietnam. Donc, on suit un jeune appelé Chris, interprété par Charlie Sheen, qui arrive au Vietnam pour la première fois, qui sait pas trop ce qu'il va retrouver là-bas. Et il va se rendre compte de l'horreur qu'il va vivre là-bas, en fait. Il va rencontrer Elias, interprété par Willem Dafoe, qui est un sergent aussi, et Tom Berenger, qui joue le rôle de Barnes, qui vont être en sorte pour lui deux figures paternelles, et c'est ce qui va le guider un petit peu dans cet endroit où il sait pas trop comment se sentir et comment se retrouver, en fait.
Pourquoi t'as choisi ce film-là ?
Pourquoi j'ai choisi ce film-là ? Parce que c'est un film que j'ai découvert beaucoup trop jeune, quand j'étais gamin, à vrai dire. Moi, je voulais voir tous les films de Johnny Depp quand j'étais môme, j'avais vraiment... J'étais ultra fan de ce gars-là,
ouais.
Et je suis allé au club vidéo et j'avais vu que Johnny Depp, c'était un de ses premiers rôles, c'était dans Platoon en 85, donc il a vraiment il est super jeune dans ce film-là. Je n'ai pas été déçu, il a peut-être 1 minute 30 à tout casser dans le film Johnny Depp,
mais il est quand même dans Platoon.
Ouais, c'est ça, mais il est quand même dans Platoon. Du coup, j'ai découvert un fantastique film quand je l'ai vu à cet âge-là. Je pense que je devais avoir 9 10 ans.
Ouais, ah oui,
c'est quand même assez jeune quand je dis
quand
je dis je l'ai vu jeune. Ouais, j'ai vu
bien jeune. Il regarde Platoon.
Ouais, non, c'est ça, à savoir en plus qu'il y a des scènes quand même assez choc dans le film,
ouais.
qui m'ont bien marqué.
Moi, j'ai vu le parrain à 5 ans.
Ouais, bah c'est ça, mais on peut continuer.
Mais vos parents,
alors, non, c'est
ils
ça.
Ils étaient précoces.
J'ai jamais été censuré pour ce que je voulais voir quand j'étais jeune. Je pense que j'ai vu Terminator 2 à 6 ans, un truc comme
mood
ça.
Donc, pour vrai.
Ouais, mood, donc voilà.
Alors, tu trouves qu'on cite souvent Apocalypse Now?
Ouais, bon, ok.
Platoon, c'est trop bien.
C'est ça. Non, moi, j'aime beaucoup les films sur la guerre du Vietnam. Je trouve que c'est une époque au cinéma en termes de mise en scène et de production design. Ça ressort toujours bien, les costumes et tout, ces trucs-là. Quand c'est bien fait, ça ressort trop bien. Et quand on parle film sur la guerre du Vietnam, tout le monde parle d'Apocalypse Now. Donc, à dire, j'ai rien contre Apocalypse Now. C'est un super film. Je surkiffe Apocalypse Now. Mais Platoon est un petit peu, comment on peut dire, pour moi, hein, c'est subjectif, est un petit peu au-dessus parce que, voilà, je trouve qu'il mérite qu'on en parle. C'est un film qui est ultra réaliste. C'est sûrement le truc qu'on entend le plus parler sur Platoon. C'est qu'Oliver Stone a vécu la guerre du Vietnam. Du coup, ça se transpose vraiment dans le film.
C'est de quoi il parle.
Mais qui va faire une scène où ils vont garder, par exemple, un endroit particulier. Il va avoir des sortes de tics dans son cerveau. Des trucs comme ça, la chaleur, l'humidité, tout ces trucs-là.
Ça a l'air vraiment bon.
Mais ce qui est intéressant, hein, c'est ce genre de détails-là que nécessairement on ne mentionne pas quand on parle de la guerre du Vietnam, parce qu'on n'était pas là. Hein.
Ouais, exactement.
Du coup, on va passer à Julien. Tu vas nous parler de quel film ?
Moi, c'est Sacra, la légende des demi-dieux, réalisé par Donnie Yen.
Ok. Pourquoi ce film-là ? Ça parle de quoi ?
Alors, c'est l'adaptation du vieux conte de Ying Zhong, semi-dieu, semi-démon. Ça suit l'histoire de... Excusez-moi, je veux pas écorcher le nom. Qiao Feng,
okay.
Qui est le chef d'un gang de mendiants. Son gang l'accuse d'être un traître et d'avoir tué l'un des siens et d'avoir tué ses parents. Et donc, lui, il décide de renoncer à son rôle pour trouver qui est le coupable.
Et du coup, pourquoi t'as choisi ce film-là ?
C'est le premier film que j'ai regardé avec mon regard de cinéphile. Donc, quand j'ai appris des codes de cinéma. Et je suis aussi un gars qui est beaucoup intéressé par la technique quand on fait des scènes de combat. Parce que je sais que quand on fait des scènes de combat, il faut prendre de la patience et savoir... Comment tu mets en scène.
C'est un film d'arts martiaux, j'imagine.
Il y a des règles à suivre.
Exactement.
Ouais.
Puisque c'est Donnie Yen. Le retour de Donnie Yen dans une production chinoise.
Yes.
Parce que je commençais à m'ennuyer un peu avec les films occidentaux, avec les scènes d'action. Et surtout, les Marvel qui sont mal cadrés et les caméras trop proches.
Mais non, c'est bien Marvel. On adore.
Ben oui, regarde donc encore Civil War, toi. Tu as un peu ce sentiment où il n'y a pas de trucs faux, où tu sens que les coups sont vraiment vraiment prennent
prisonnier. Vraiment.
Ouais, il y a surtout une scène où genre Donnie Yen lui fait un coup de pied retourné sur un gars, puis le gars il revole directement sur la table, mais la table se brise et tu te dis.
Attention.
Oui, bonjour, c'est Victor en régie. Je me permets d'intervenir. J'aime beaucoup ce qu'il est en train de dire sur la question du fait que contrairement à des Marvel, on voit plus. Je pense aussi que c'est dû au fait que contrairement aux Marvel où quand on est à un moment dans une scène d'action, bah on remplace le véritable comédien par justement des cascadeurs et tout. Dans le cinéma asiatique et aussi le cinéma indien notamment, les gens qui font les cascades sont aussi les stars qui vont jouer dans le film. Donc on va pas gâcher leur travail, on va pas le surcuter, on va pas tout ça. Je pense notamment récemment, il y a eu un super film asiatique qui est sorti qui s'appelle Creation of the Gods, qui est un immense film d'action et où chaque scène, tu vois les comédiens, il faut voir leur travail, il faut voir justement, on prend ces gens-là parce qu'ils ont une capacité d'être un acteur et de transmettre des émotions, mais aussi parce que c'est des corps d'action et qu'il faut au maximum les mettre en avant, mieux les filmer et plus les respecter que des cascadeurs qui ont même pas le droit d'avoir une catégorie aux Oscars aux États-Unis, quoi.
Ouais, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les films de Jackie Chan. Dans les films de Jackie Chan, il y a tout le temps une séquence à la fin pendant le générique où tu vois les moments où il s'est moffé. Hein. Il s'est planté pendant ses cascades.
Mais il a failli mourir plein de fois, Jackie Chan. C'est un truc de ouf.
C'est un malade.
Le mec, son corps, il est terminé.
Ah, il mérite d'être célèbre, tu vois.
Je
pense qu'il l'a mérité. Il a assez souffert.
Ouais, mais aussi que dans ce film-là, tu sais que chaque scène d'action, genre les coups qui sont envoyés, c'est millimétré. Donnie Yen, il a fait 60 piges. 60 piges! Et pourtant, en plus, dans le film, tu vois qu'il est encore jeune.
Et moi, je me plains que j'ai mal au dos, super. Ta gueule, Andrew! Du coup, on va passer à Marc-Antoine. Tu vas nous parler d'un film québécois, apparemment.
Oui, Tout est parfait. Donc, c'est un film de 2008 réalisé par Yves-Christian Fournier, qui est un film assez déprimant, je dirais. Je vais le dire tout de suite. Ça commence, en fait, il y a quatre adolescents qui se sont suicidés. Ça commence comme ça. Il y a des images un peu crues aussi dès le départ du film. Et on suit l'histoire, en fait, de Josh, le personnage principal du film, qui était l'ami de ces quatre autres garçons-là, qui vit un peu le drame. Et après, ça s'intéresse à... je dirais que c'est un peu un film qui s'intéresse à ceux qui restent après qu'il y en ait qui soient partis, au final. On suit l'histoire de Josh qui essaie de survivre après ça, qui noue des relations qui sont pas toujours faciles avec l'ex-copine de un des jeunes et le père d'un des autres jeunes. C'est assez déprimant, mais il y a de l'espoir aussi. Le scénario, c'est vraiment une des forces du film, écrit par Guillaume Vigneault, qui est le fils de Gilles Vigneault, entre autres choses. Ouais.
Intéressant. Icône québécoise.
Excusez-moi, bonjour, c'est la régie. Qui sont ces gens que vous citez? Je les connais pas du tout. Parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait une ref très québécoise. Et en tant que de sale français, j'ai vraiment pas eu la ref, quoi.
Bienvenue au Québec. Je pensais que c'était un des seuls Québécois connus en France.
Non, on connaît Anthony Cavana et Stéphane Rousseau. Et François
Perrault, okay. Xavier Dolan.
Mais Gilles Vigneault, entre autres, c'est celui qui a un peu créé notre hymne national au Québec. Okay.
Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. C'est une phrase de Gilles Vigneault. C'est une chanson.
Et alors, pourquoi tu as choisi de nous parler de ce film-là?
C'est un film que je trouve extrêmement marquant. Je l'ai pas vu à l'adolescence. Je l'ai vu un peu plus tard. C'est un film qui a beaucoup de rebondissements. En fait, là, il y a des flashbacks, il y a toutes sortes de péripéties. L'émotion m'a encore frappé extrêmement fort à la fin, juste en anticipation de ce qui arrivait. On dirait que j'avais de la misère à respirer.
Ah oui, ça doit être bien oppressant.
Ouais. Tu peux pas vraiment faire un film léger
c'est un film qui est assez déprimant. Je veux dire. L'image est très grise, tourné, ça se passe dans une sorte de ville, de région, mais industrielle, donc c'est...
Avec des tanks partout
ou... Oui, pas partout. Oui, il y en a beaucoup. Tous les pires aspects de la ville et de la campagne mis ensemble. C'est juste comme déprimant, mais...
chercher le pire dans tout.
Exact. Pour tout ce qui est décor et tout ça, mais après ça, dans l'image, j'ai dit qu'elle était grise, mais il y a aussi l'espoir qui est là, la lumière du soleil. Il y a un beau travail, je pense, sur la lumière.
Et quand tu dis qu'il y a quatre jeunes qui se sont suicidés, c'est genre en même temps? Ou ça m'intrigue. Non, mais ça m'intrigue.
Est-ce que ça va rester dans l'émission?
Je sais pas, ça m'intrigue en fait.
Ça spoil pas, s'il te plaît, parce que je vais sûrement le regarder, vu comment t'en as parlé, ça m'a beaucoup donné envie.
Mais non, mais oui et non, ça dépend. C'est, bon.
Du coup, on va finir avec toi, Power.
Bonsoir,
Paul Power, toi, tu vas nous parler d'un film.
Oui, je suis revenue parler du film Promare de Imaishi Hiroyuki.
Ok.
Sorti en 2019, c'est par le studio Trigger, un film d'animation japonaise, encore une fois, qui raconte l'histoire de Galo Timos, qui est un pompier dans, je sais pas si c'est Tokyo, dans une ville japonaise plutôt okay. futuriste, où une nouvelle sorte d'êtres humains appelés les Burnish sont venus au monde spontanément comme ça. Puis c'est des êtres humains qui sont capables de créer du feu. Puis Galo Timos combat une organisation terroriste de Burnish qui s'appelle Mad Burnish, qui existe dans le fond pour libérer les Burnish. Puis il va apprendre peu à peu qu'il y a peut-être plus aux Burnish que juste des terroristes qui veulent détruire le monde.
Et est-ce que c'est aussi issu d'une série ou c'est vraiment juste
non, c'est un film original par un réalisateur qui a de l'expérience dans la série. C'est le réalisateur, entre autres, de Gurren Lagann, Kill la Kill. C'est son premier gros long métrage à budget. Puis tu le sens vraiment dans la production. Il y a du moyen, que ce soit au niveau de l'animation traditionnelle en 2D ou de l'animation 3D aussi, qui vient créer les flammes des Burnish, qui donne une esthétique un peu vaporwave, rose, bleu pâle. Une thématique du film que je préfère pas spoiler, que je vais laisser les gens découvrir, mais c'est en lien avec la communauté LGBT.
Oh, okay.
Oui. Développe. non, mais c'est un film qui est vraiment super bien, puis ça démontre vraiment bien, à mon avis, le pouvoir de l'animation japonaise, puis tout le cinéma de tout ce que Imaishi Hiroyuki a fait, en fait, où est-ce que vraiment on exagère les traits de personnages, l'action est ultra exagéré, c'est over the top, mais comme, ouais, mais pas x2, genre comme x1000, comme on va vraiment au bout de ce qu'on peut faire. Les personnages sont caractérisés plus par leurs traits, leur animation, leur design que par le dialogue. La fin met toujours les larmes aux yeux parce que c'est juste shit, man, c'est cool. Hein? Ouais. C'est tellement cool.
C'est genre les Japonais, ils sont bons comme ça. Genre,
oui,
genre,
mais
un peu comme Jojo Bizarre Aventure.
Ouais, un peu comme Jojo, comme on peut voir sur ta veste. Même au niveau de l'animation japonaise, Imaishi Hiroyuki, il est toujours plus haut. Il est toujours comme x1000 par rapport aux autres. Il est toujours dans l'extrême. Une scène d'action, on parlait de Marvel plutôt, une scène d'action où c'est juste des gens qui se battent, quelque chose. Il est comme, ouais, non, mais moi, je veux que ce soit dans l'espace. Fait que...
Ouais.
Là, ils sont dans des gros robots, puis ils se garochent dans l'espace, puis c'est juste quoi ajouter de plus? C'est tellement beau à voir.
C'est genre comme quoi assumer son délire, parfois, trucs géniaux.
Ah, il s'assume à 1 milliard de %. C'est vraiment fascinant.
Vous aviez déjà entendu parler de ce film?
Ouais, j'ai entendu parler et j'ai pas encore vu.
Oui. Une quiche en cinéma d'animation. Japonais, malheureusement, donc...
Que veux-tu? Ça paraît-tu que je suis weeb un peu?
J'ai vu juste une période manga un peu, donc j'ai vu quelques films d'animation. Ouais,
moi, je regardais Naruto quand j'avais 8 ans, voilà. Mais à part ça...
Moi, j'ai vu les films de Miyazaki, mais
je pense Miyazaki, c'est vraiment la porte d'entrée dans le cinéma.
Ces films sont plus accessibles aussi parce qu'ils ont aussi beaucoup de VF.
Ces films sont super accessibles parce que c'est des fables. Ça s'acclimate un peu à notre ambiance occidentale de bon Disney, Pixar, ces trucs-là, tout en gardant une esthétique puis une vibe plus japonaise qui dénature pas l'aspect oriental des films de Miyazaki. Puis c'est quelque chose que je trouve vraiment fascinant dans le cinéma de Miyazaki, c'est comment il réussit à s'exprimer au plus grand nombre tout en faisant de quoi qui est purement japonais.
Tu veux parler, Victor?
Ouais, non, parce qu'on était en train de parler du fait qu'il y avait une accessibilité d'un certain cinéma japonais, notamment Miyazaki, via la VF. Promare a eu une grande VF qui a été faite par un grand studio. Je me demande si c'est pas Dubbing Brothers, mais qui a fait justement une VF de grande qualité avec Donald Renew, avec plein de gens dessus. Donc je vous encourage même à découvrir le film avec sa VF, qui est vraiment très réussie. Et en plus, on a beaucoup de chance, contrairement aux années 90 ou début des années 2000, on a de plus en plus de studios japonais qui sont diffusés, que ce soit au Canada ou que ce soit en France et tout. Donc c'est le moment justement de se lancer dans l'animation japonaise et de découvrir que c'est pas que Miyazaki et il y a plein d'autres gens qui font des trucs de ouf, quoi.
Bah, quoi de mieux pour conclure l'émission de parler de Miyazaki. Merci beaucoup d'être venu partager avec nous des films qui ont l'air super.
Plaisir, merci beaucoup.
Donc, je vous souhaite une bonne continuation, puis moi je repasse le micro à Victor.
les questions du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram où je vous dis « Hey, vous avez une question sur l'actualité ?» Et si vous avez une question sur l'actualité, eh ben, vous avez moyen de passer dans l'émission. Si vous voulez poser vos questions, le plus simple, c'est de me suivre sur Instagram. Hein, le lien est en description. Et aujourd'hui, la question vient de Bielsa Mathieu qui dit « Salut, du coup, la résolution de l'affaire du sang dans le trailer d'Alien Romulus, tu en es où ?» Nulle part, je réfléchis. Si vous me suivez pas sur Instagram, vous avez peut-être pas la ref. En fait, l'autre jour, on m'a envoyé un message et pour la première fois depuis très longtemps, on m'a posé une véritable colle. Et vraiment, je tourne le truc dans ma tête depuis, je réfléchis, je cherche des infos, j'ai rien trouvé sur le web qui peut répondre à la question qu'on m'a posée. Parce que je parlais dans la précédente émission du premier teaser du futur film Alien, Alien Romulus, réalisé par Fede Alvarez, un film qui me fait particulièrement envie. Et là, je reçois un message de quelqu'un qui me dit « Hey, pourquoi dans le trailer, au tout début, le sang dans le caisson, il est gris ?» Alors je comprends pas, je remate le trailer, je vais sur la chaîne YouTube officielle de 20th Century Studio, je regarde le trailer et je regarde le caisson, et non, le sang dans le caisson, il est rouge. Je me dis « Étalonne ta télé, frérot, t'as un problème. » Ah là, t'as un problème. Puis je me dis « Attends, c'est un Français qui m'a envoyé ce message, peut-être qu'il l'a vu sur la chaîne YouTube française de 20th Century Studio. » Du coup, je vais sur la chaîne française de 20th Century Studio, la chaîne YouTube officielle, et là, dans le trailer, le sang est gris. Du coup, je me suis perdu dans un tunnel de chaîne YouTube officielle de 20th Century Studio. J'ai regardé la chaîne aux États-Unis, au Canada, en Italie, en Espagne, en Angleterre, en Thaïlande. Et à chaque fois, le sang dans le caisson était rouge. Et il n'y a que sur la chaîne YouTube française, de la version française du distributeur, que là, le sang dans la bande-annonce est gris. Pourquoi ? Comme je le disais, j'ai pas de réponse officielle. Tout ce qui va suivre n'est que de la pure spéculation, mais voilà les trois options que je suis prêt à mettre dessus. La première option, qui me semble la plus probable, mais qui m'interroge quand même, c'est que le trailer est censuré. Mais alors, censuré, pas dans le sens « attention, le film va être censuré », genre non. Genre le trailer a été censuré, on a gommé un peu le sang pour pouvoir diffuser ce trailer à des séances de cinéma tout public, sans forcément que ce soit choquant justement pour les gens présents dans la salle. Ça arrive souvent aux US, t'as très souvent un trailer clean qui sort, et un trailer qui est appelé le trailer Red Band, et qui lui contient toute l'image rigor. Et donc le trailer clean, eh ben tu peux le diffuser par exemple à la télévision pour attirer justement du public de masse, et le trailer Red Band avec toute l'image rigor, bah lui, il va plutôt se retrouver sur Internet pour public averti. Sauf que ce qui m'étonne là, c'est que même les chaînes YouTube américaines n'ont pas le trailer français. Je n'ai trouvé aucune chaîne YouTube américaine qui a un trailer où le sang est gris. Ils en ont qu'un seul de trailer, celui avec le sang rouge. Partout, tout le temps. Alors pourquoi est-ce que la France aurait un trailer que les États-Unis n'ont pas ? Deuxième option, c'est de la censure marketing. Alors là, c'est beaucoup plus radical, je vous avouerai que j'y crois pas trop, mais imaginons peut-être que la branche française du distributeur Disney, donc 20th Century Studio, etc., a décidé qu'en France, le film sortirait dans une version censurée avec moins de sang. Donc tous les pays du monde auront une version hardcore, mais nous, en France, pour peut-être éviter, je sais pas, une interdiction au moins de 16 ans et plutôt avoir une interdiction au moins de 12 ans moins restrictive, eh ben on sortirait le film dans une version un peu plus gentille. Mais encore une fois, j'y crois pas trop. Je veux dire, la France qui altère un film alors que partout dans le monde, on est encore dans les années 70. Je crois difficilement au fait que dans un truc aussi mondialisé, on sorte le film dans une version censurée en France alors que partout à l'international, il n'y est pas. Puis Alien, en plus, c'est une licence connue, non, tu censures pas Alien, ce serait vraiment giga débile. Et alors, troisième option, mais alors là, qui est totalement invérifiable, hein, je spécule encore une fois, c'est à cause du doublage. Toutes les autres chaînes YouTube officielles ont sorti le trailer avec des versions sous-titrées. Il y a qu'en France, et c'est vraiment un des cas rares, où on a une version où il y a du doublage par-dessus. Et du coup, peut-être que pour faire le doublage dans la version française, on leur a envoyé une version du trailer qui n'était pas tout à fait terminée, où il y avait encore peut-être des retouches de FX à faire, comme par exemple, je sais pas, rendre le sang vraiment rouge. Tous les autres ont une version définitive parce que les sous-titres, il y avait moins de travail. Par contre, la France a une version très en avance pour pouvoir faire le doublage, donc une version pas def, et c'est celle qui s'est retrouvée malheureusement en ligne. Mais là, pour le coup, bah, y a deux problèmes. C'est que sur la chaîne YouTube française, il y a aussi une version en VOSTFR et que leur version sous-titrée, bah, elle a aussi le sang gris, en fait. Donc, pourquoi est-ce que les autres, ils ont des sous-titres, ils ont le sang rouge? Et là, je comprends pas. Et pour le coup, j'ai fait plus de recherches et j'ai trouvé la chaîne YouTube allemande. Et dans la chaîne YouTube allemande, il y a aussi une version avec du doublage. Et le sang est rouge. Donc, il y a vraiment que la France qui a le sang gris. Donc, quelle est la réponse finale? J'en ai aucune idée. Je veux dire, à moins qu'un mec de Disney passe, quelqu'un du marketing ou de la com, regarder l'émission, l'écouter et se dise, non, mais en fait, c'est ça la réponse. Ben, on saura pas. On peut que spéculer, se poser des questions. Ça se trouve, c'est juste une erreur d'un stagiaire qui a uploadé la mauvaise version du trailer et maintenant ils sont bien dans la merde pour réuploader parce que, ben, la vidéo a déjà fait 200 000 vues sur la chaîne YouTube française. Si vous croisez par contre le trailer dans les salles de cinéma françaises, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me dire si vous avez vu le sang gris ou rouge. Ça m'intéresse beaucoup. Mais pour le coup, ben, je dois me rendre à l'évidence. Je n'ai pas de réponse définitive à cette question et voilà, je n'ai pas pu répondre à la question du public. Ça arrive. Affaire à suivre donc.
Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne.
Allez, un film pour finir et on remballe. Vous le savez, à chaque fin d'émission, je termine en vous parlant d'un film que j'ai apprécié ou non. Et si jamais vous voulez passer dans l'émission, bah, n'hésitez pas vous-même à envoyer un audio pour y passer. Le vendredi, c'est pas moi qui parle, c'est vous qui prenez la parole. Si vous envoyez un audio à l'adresse mail lepirepodcastciné@gmail.com, un audio d'environ 3 minutes pour parler d'un film récent ou non, qui vous plaît ou pas, vous faites ce que vous voulez. On a reçu assez peu d'audio la semaine dernière, du coup, n'hésitez pas si vous voulez en renvoyer, c'est le moment ou jamais. Et moi, de mon côté, je vais vous parler d'un film d'horreur dont je vous avais déjà parlé dans les sorties de mercredi dernier et il s'appelle Immaculée.
Hello?
J'avais peut-être trop d'espoir sur celui-là. C'est peut-être mon erreur. Peut-être c'est mon erreur. Parce que Immaculée, c'est un film réalisé par Michael Mohan. Michael Mohan qui avait réalisé un autre film pour Prime Video qui s'appelait The Voyeur et qui mettait déjà en scène Sydney Sweeney dans un rôle où elle jouait avec son compagnon à touche pipi en matant les voisins. C'est vraiment ça le scénario du film. Et du coup, on vient de passer du thriller érotique au film d'horreur où Sydney Sweeney joue une nonne devenue sainte vierge immaculée. Ouais, changement d'ambiance radical. Je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a une part de fantasme. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'envie de démystifier tout ce qu'on a vu de Sydney Sweeney qui a quand même enchaîné bon nombre de rôles ultra sexualisés, et en même temps le côté nonne. Je kink-shame pas, hein, mais j'ai vu des commentaires, je sais. Je suis très perplexe sur ce long-métrage, parce qu'on pourrait parler des intentions du réalisateur, on pourra en parler après, mais je suis surtout perdu dans le fait que le réal sait faire de la belle image, mais il sait décidément pas faire un film d'horreur. Pour info, j'ai un compte Letterboxd, le lien est en description, hein, où j'avais publié des bêtises et j'avais notamment marqué sur Immaculée, c'est filmé comme un drame A24 alors que c'est teubé comme un jumpscare Blumhouse. Et je suis désolé, c'est un bon résumé. Il y a des jolies idées visuelles pour installer le couvent, même des idées dans la lumière, cette idée de filmer régulièrement à la bougie, puis même de pures idées graphiques avec ces nonnes qui ont le drap rouge sur le visage. Ça construit un univers, c'est intéressant. Mais c'est assez attendu pour ce genre de film qui va soit juste utiliser son décor pour exister, soit réutiliser une imagerie catho-porn qu'on a déjà vue plus de 1000 fois. Ça alimente aussi toute une esthétique religieuse, je veux dire ce plan où elle est à moitié sanctifiée et tout. Il y a une imagerie qui fonctionne, hein, attention, ça fonctionne. C'est juste que je tombe pas de ma chaise, je regarde ça, je dis oui, bon, j'ai déjà vu ce genre de choses. C'est quasi un plan de clip, en fait. Bon, ça raconte un peu plus qu'un plan de clip, mais c'est très souvent de l'esthétique juste pour de l'esthétique. La meilleure scène du film, d'ailleurs, elle est dans le clipesque, c'est une scène horrifique qui se déroule dans un confessionnal. Elle est présente dans la bande-annonce, mais elle va un peu plus loin. Ça joue d'abord sur le travail des perspectives, c'est plutôt malin. Et la deuxième partie, elle, est beaucoup plus anarchique, beaucoup plus clipesque pour le coup. Mais ça fonctionne, ça me prend, ça m'intéresse. Le problème, c'est juste que, à partir du moment où il s'agit de raconter des trucs, Mama, ça devient vraiment compliqué là. Parce que le film est ultra con. Mais vraiment, d'une bêtise qui est assez affligeante. On a le droit évidemment à de l'exposition d'enjeux qui est ultra lourde, avec un lot de personnages, attention mon dieu, qui sont mystérieux, puis un nombre de fusils de Tchekhov complètement dément. Clairement, ça fait pas dans la dentelle. Et le problème, c'est que j'avais vu pas mal de commentaires passer qui disaient « ça réunit à la fois le meilleur de l'elevated horror, mais aussi du film du samedi soir entre potes ». Et je suis pas d'accord du tout. Parce que c'est ni assez léché, ni assez flippant pour véritablement s'inscrire dans l'elevated horror si tant est qu'elle existe. Et en même temps, bah, ça recycle beaucoup trop de trucs pour s'inscrire comme un film de série B qui restera dans les annales. C'est anodin à tous les niveaux. Jusqu'à, en plus, son dernier acte, qui est, je pense, le plus teubé, le plus violent, stupide, et qui sert un propos qui, je trouve, bah, le dessert un peu. Parce que j'ai vu aussi des critiques passées qui disent c'est un film féministe qui dénonce à la fois les pratiques de l'église, mais aussi les personnes anti-avortement, et ce serait mentir de dire que c'est pas dans le film. Oui, c'est un récit émancipateur d'un personnage féminin qui va tracer sa propre voie dans un système qui l'enferme, et pour le côté anti-avortement, vous irez voir le film, parce que oui, là, c'est assez frontal. Ouais, mais justement, c'est ultra frontal, et donc c'est un mélange de pseudo-recul avec des scènes violentes débiles. Et tu peux dire, pour rattraper que c'est débile, le fait que oui, mais ça raconte quand même un truc important, et oui, c'est vrai que dans une Amérique qui est actuellement aussi matrixée par la religion, par la question de l'avortement et tout, faire un film comme ça, c'est important, ok. Et le fait qu'il y ait Sydney Sweeney à l'intérieur, une icône qui charge avec elle tout ce qu'elle avait fait dans son passé, effectivement, c'est important, ok. Comme notamment les photos qu'elle faisait avec sa famille trumpiste. Ou ça, c'est un autre sujet, c'est une autre histoire. Mais ça en fait pas un meilleur film. C'est pas parce que ça porte en lui un sujet important que ça en fait un film réussi. Parce que même si ça essaye de traiter un sujet important, ça le raconte mal. Ça le raconte de manière débile. L'important, c'est pas tant ce que ça raconte, c'est que ce soit un bon film. Et c'est ni un bon film d'horreur, ni un film véritablement stupide, parce qu'il se prend beaucoup trop au sérieux en plus. Alors, il reste Sidney Sweeney, qui est formidable dans le film, parce que alors elle a pas encore trouvé son grand rôle au cinéma, le rôle qui la fera exploser par-dessus tout. Il y avait eu un début avec Reality. Le problème, c'est que Reality a pas été assez vu pour être véritablement marquant, mais Sidney Sweeney est encore l'attrait principal de ce long métrage. Elle défonce, voilà. Le film, lui, par contre, beaucoup moins. Et ça, bah c'est dommage. C'est ainsi que se termine cette émission du pire podcast cinéma. Merci de l'avoir suivi jusque-là. J'espère que vous allez bien, que vos proches et tous les gens qui vous entourent vont bien aussi. C'est le début d'une nouvelle semaine et d'un paquet de news qui, je l'espère, vous raviront. Du coup, on perd pas de temps. La prochaine émission, c'est mercredi. Pour l'instant, c'est terminé. Si vous en voulez encore...
Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini, cette histoire-là.
Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.